D'abord, bonjour à tous et je vous demande pardon de mon absence. J'ai des éléments à conclure, à terminer, à étoffer, malheureusement, mais je suis obligé de le faire en dehors d'Israël, donc je suis obligé d'aller terminer tout ça, parce qu'après on n'aura plus le temps. Lorsque le Mashiach sera là, ça sera fini, donc il faut faire tout avant. Alors voilà, donc je suis très 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 heureux de vous retrouver. Nous sommes, Baruch HaShem, nombreux dans notre shiour et nous allons commencer aujourd'hui à nous préoccuper de cette notion qui est, je vous le dis d'avance, insaisissable. Et donc, c'est une notion qui nous dépasse complètement. Mais nous devons savoir son existence car rien n'existe en dehors de cette existence-là. Nous sommes en réalité tous dans un grand bain qui s'appelle le Ein Sof. La définition dans le sens négatif, c'est-à-dire il n'y a pas de fin, Ein Sof, vient justement pour montrer que nous ne pouvons pas décrire quoi que ce soit dans le sens positif. Car on pourrait tomber, chas v'chalila, dans la définition des choses. Or, nous sommes dans l'impossibilité de définir, parce que ce n'est pas fini. Et donc, le Ein Sof, Beptichat Otzrot Chaim, Masbir Ha'arizal, le Hari HaKadosh, notre grand kabbaliste, il y a 500 ans, dans un des livres qui s'appelle Otzrot Chaim, Les trésors de la vie, nous explique par son élève, bien entendu, Rabbi Chaim Vital, car le Harizal n'a pas écrit lui-même ses livres, étant donné que la connaissance était tellement grande qu'il ne pouvait pas mettre sur texte, c'est-à-dire contracter. Vous savez que lorsque les choses sont tellement immenses, on ne sait pas par où commencer. On n'arrive pas, en fait, à chaque fois qu'il posait le stylo sur le papier ou le parchemin, l'infini se présentait devant lui, donc incapable de commencer par un degré ou un autre, car c'était trop grand. Son élève et son fils, Rabbi Shmuel Vital et Rabbi Chaim Vital, okay? Rabbi Shmuel, et Rabbi Chaim, le père et le fils, ont mis sur texte les écrits donc de leur maître, le Hari HaKadosh. Et donc là-bas, le Hari nous dit, Da, il faut que tu saches. Ce qui est très intéressant, cette définition, Da, qui ne veut pas dire savoir comme dans le sens je sais quelque chose, mais connaître. C'est-à-dire que dans la Kabbalah, la connaissance est de requise, pas dans le sens intelligent, mais dans le sens de, j'allais dire, du rapport intime, comme connaître, comme Adam a connu Ève, pour avoir des engendrements. Eh bien, nous sommes demandés à avoir un rapport intime avec la Torah que nous étudions. La Torah nous féconde. Et donc, nous avons une connaissance intime avec le texte de la Torah, donc avec la prophétie, avec la parole divine. Et là, le Harizal utilise donc ce da'at, qui est justement cette connaissance intime, qui trilat hakol, sache qu'au début de tout, haya kol hametziut, toute l'existence était or pashut, une lumière qui se répandait. Venikra Ensof. Et c'était en réalité le Ensof, l'infini, le non-fini. Qu'est-ce que le Rav vient nous enseigner? Harav mitkaven lirtsono itbarach. On ne parle pas, bien entendu, de l'infini dans son essence, car on n'en parle même pas. Car ça nous dépasse tellement que même la parole dans ce domaine, dans ce sujet, serait déjà une insulte. C'est tellement immense qu'aucune parole ne peut saisir, qu'aucune pensée ne peut saisir. C'est d'ailleurs la définition du Zohar à Kadosh, ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que c'est? C'est des let marshavat fisa beklal uchlal. Aucune pensée ne peut saisir, contenir, aborder ce sujet. Donc on ne parle pas de l'infini béni soit-il dans son essence. On parle déjà, à notre niveau, de sa volonté. Mais même cette volonté, dans sa source, est tellement immense qu'il va falloir la condenser. Il va falloir passer par une contraction pour que cette volonté divine nous parvienne. Nous, les hommes, création, créature, on ne peut pas jouer avec cette grande lumière si cette grande lumière ne passe pas auparavant par des filtres. Est-ce que je suis clair ? Et donc, le Créateur lui-même, au lieu de dévoiler sa pleine lumière et nous brûler par la même, eh bien, va créer d'abord un système de réception, un système de perception. Ce système de perception, on va l'appeler bientôt le Tzimtzum. Mais pour l'instant, on est en train de dire ce qu'il y avait avant ce Tzimtzum. Donc c'était une volonté, la volonté de l'infini béni soit-il, et même cette volonté était bilti mugbal, c'est-à-dire non limitée, no limits. Il n'y avait pas de limite dans cette volonté. Umeachar she'en lanu musag be'inyan ze klal uchlal, étant donné que nous n'avons aucune possibilité d'atteindre ce domaine-là, aucunement, tellement c'est immense et que ça nous dépasse, bah, hakinui, le Rav va utiliser une terminologie, une sémantique, derech hashlila, par la négative, en, il n'y a pas, sauf de fin. C'est-à-dire que quand je ne peux pas définir quelque chose en disant c'est, eh bien, je suis obligé de dire « ce n'est pas ». Donc, la seule chose qu'on puisse dire, même sur la volonté divine, qui n'est pas encore l'infini, bien, ce n'est pas. Ce n'est pas fini. Donc, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'infinité. Et donc, cet infini-là, c'est la définition que le Hari HaKadosh a choisi pour définir, donc, quelque chose qui est indéfinissable. Voilà la définition du Zohar, des lettres, car il n'y a pas. Shtum machashava, aucune pensée, fissa be, qui puisse accrocher quelque chose dans ce domaine tellement élevé, klal ou chlal, aucunement. C'est clair. Ça veut dire que nous sommes en train de toucher un domaine qui est pour nous, le non. Le'olam einenu medabrim bemahuto yitbarach. Première conclusion qui se exigeait, c'est que nous ne parlons jamais, au grand jamais, de son essence, mahout. Hadibur alav, donc toutes les paroles que nous utilisons dans le domaine de la Kabbalah, asur betachlit, est interdit, absolument interdit. Vous avez remarqué que le Rav Cherki accélérait à des moments donnés dans son texte sans rien traduire, mais tout simplement parce qu'il y avait des éléments qui dépassaient le niveau du cours, donc il a compris qu'il ne fallait pas s'attarder, il fallait passer à autre chose. Nous n'avons aucune prise dans son essence infinie. Et c'est pourquoi tout ce que nous étudierons, nous allons nous affairer sur une seule chose, sur le dévoilement de sa volonté. Ça nous concerne. Puisque ce dévoilement de sa volonté, bien, c'est la chose qui va se manifester dans la création elle-même. Donc chez nous, les créatures, les créations tout entières dans tous les niveaux. Donc j'ai besoin de savoir ce qu'il veut de moi. Je n'ai pas besoin de savoir et je ne saurai jamais ce qu'il est. Mais ce qu'il veut de moi, je suis non seulement en devoir de l'étudier, mais je ne peux pas faire autrement. Sinon, je ne vis pas ma véritable vie. Comprenez bien. Nous sommes obligés donc d'étudier son ratson. Une autre définition du ratson, c'est son nom. C'est-à-dire que je peux dire ratson ou je peux dire shemo, Hashem Shelo. C'est la même chose. Donc je ne m'occupe pas de son ou, de son être infini, je ne m'occupe que de son shemo, de son ratson qui est en réalité son nom. De la même manière que je m'appelle Yoel, mais en fait ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Donc le nom d'Hachem, c'est sa révélation. Zesot qui douche Hachem, c'est exactement ce que je viens de vous dire, ça s'appelle sanctifier son nom. Comment est-ce que je peux sanctifier son nom? Eh bien en le révélant, en révélant sa volonté divine sur mon demain, dans mon domaine terrestre, humain, dans la création tout entière. C'est clair? Donc, regardez ici, entre parenthèses, Shemo est la même valeur numérique que Ratson, 346. Ça veut dire, quand j'étudie son Ratson, j'étudie son nom. C'est la même chose. Étudier son Ratson, c'est étudier son nom. Étudier son nom, c'est étudier sa volonté. Donc, mon nom, c'est ma volonté. Donc, votre prénom contient votre volonté. À l'intérieur de votre prénom est codifiée votre volonté. Donc, par rapport à votre prénom, nous pouvons savoir ce qui vous fait courir dans votre vie. Ce n'est pas par hasard que votre prénom est celui qu'on vous a donné. Et donc, c'est lui qui va vous faire avancer dans votre vie. Et le jour où vous réaliserez votre prénom, avec les lettres qui le composent, eh bien, ce sera le dévoilement de votre être intérieur. Donc, je vais me prendre comme exemple. Mon prénom Yoel, c'est tout simplement la réflexion du film de ma vie sur l'écran de mon existence. Le jour où les quatre lettres de mon prénom, Yoel, Yud, Vav, Aleph et Lamed, sont réalisées, c'est-à-dire que le Yud, je dois savoir d'où il vient et qu'est-ce que je dois en faire. Le Vav de mon prénom, la même chose. Le Aleph et le Lamed, idem. Eh bien, j'aurai réalisé mon être. C'est-à-dire que ce que je suis dedans et ce que j'aurai vécu dehors, ce sera identique. Toho et Baro. L'intérieur et l'extérieur sont à l'identique. Ok, eh bien c'est la même chose. Conclusion intermédiaire, on ne s'occupe pas de son être infini, on ne s'occupe que de sa volonté, c'est-à-dire de son nom, donc de son dévoilement sur terre à travers nos vies. Et pas seulement les nôtres, celles des animaux, celles des végétaux et celles des minéraux. Vous comprenez bien que si un animal s'appelle Kratoul, un chat, eh bien c'est parce qu'il révèle la même volonté infinie avec ces quatre lettres Kratoul. Et donc, si je fais un doctorat sur la vie du chat, eh bien, je suis censé retrouver l'infini avec sa volonté, je parle de la volonté de l'infini, qui se dévoile à travers cet animal qui s'appelle le chat. Et la même chose avec le chien, la vache, Et la même chose avec le minéral, c'est-à-dire que si les eaux s'appellent Maïm, eh bien j'ai le devoir d'aller scruter la définition de l'eau pour savoir comment la volonté de l'infini se dévoile à travers ce minéral qu'est l'eau. Vous êtes avec moi ? Vous voyez, je fais exactement l'inverse, je parle très lentement, parce que vous avez un cours très rapide, alors j'essaye de freiner un petit peu pour que les choses soient réellement comprises et assimilées. Je vous laisserai bien entendu à la fin quelques minutes pour poser vos questions. Besof Sifra de Tzniuta, à la fin du livre qu'on appelle le livre de l'humilité, qui nous a été offert par le Gaon de Vilna, eh bien, le Gaon de Vilna nous donne à la fin de ce livre une définition. La voilà. Afilu ha'ensof eino kinui le mahuto. Même l'infini lui-même n'est pas une définition de ce qu'il est. OK ? On nous éloigne volontairement, vous le voyez, de toute définition possible, a fortiori de tout dessin, de toute représentation, et on s'éloigne de plus en plus de tout ce qui pouvait, Chas v'Shalom, pourrait montrer quelque chose de l'ordre du divin dans ce monde. Interdiction formelle. Pas parce qu'on sera puni si on le fait, tout simplement parce que ça ne veut rien dire. Je ne peux pas, par définition, définir l'infini, sinon il n'est plus infini. Il est peut-être un petit peu plus grand que moi, mais pas infini. Donc je ne peux pas servir un Dieu limité. Donc le judaïsme est très intelligent. Notre Dieu est illimité, donc il ne peut pas mourir. Un jour, dans le même bateau se trouvait la maman du Rav Kook avec des femmes qui venaient pèleriner. Et les femmes posent la question à la maman du Rav Kook : où est-ce que vous allez ? Ils étaient en train d'accoster la ville de Haïfa avec le bateau. Eh bien, la maman du Rav Kook dit : moi, je vais en terre d'Israël, où est-ce que vous allez, vous ? Il dit, nous aussi, on va pèleriner, notre Dieu, il est enterré à Nazareth. Eh bien, la maman du Rav Kook a dit, c'est bien, moi, je vais voir où mon Dieu vit. Un Dieu ne peut pas mourir. Donc, vous voyez qu'il y a ici des définitions qui sont, par définition, indéfinissables. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Si mon Dieu peut mourir, donc il a des valeurs humaines, ce n'est plus un Dieu. Donc nous sommes ici en rapport avec l'infini, insaisissable. Alors de quoi nous parlons ? Toute la Torah ne parle que des noms de cet infini. Je vous ai dit tout à l'heure que les noms, ce sont les volontés. Eh bien, quand tu étudies les noms, tu étudies ce qu'il veut. C'est tout. Donc, vous devriez devenir des spécialistes de la langue hébraïque. C'est tout ce qu'on vous demande. D'étudier à l'Ulpan d'une manière tellement profonde que l'hébreu devienne votre langue tellement intérieure qu'aucune autre langue ne pourra faire l'effet de cette langue vous fait. Asagevehu iyada shemi. Akadosh Baruch Hu dit, qui est-ce que je peux élever dans ce monde en tant qu'homme, femme? Celui qui a pris connaissance de mes noms, de mon nom. Étudiez mes noms. C'est tout ce que l'infini nous demande. Le Zohar. Vous voyez, je prends quelques références différentes. Mais Sefer HaZohar HaKadosh, regardez maintenant la définition. Atzmut en sof baruch hu, l'essence même, la quintessence de l'infini béni soit-il, satim. C'est complètement bouché pour nous. Mikol setimin, et c'est une bouchure qui est la plus grande bouchure de toutes les bouchures. C'est une expression qui t'éloigne de plus en plus en te disant c'est même pas la peine d'essayer de rentrer, tu ne comprendras rien, il n'y a rien à comprendre. Ce n'est pas au niveau de ta compréhension. Ve'elechanoto. C'est pour ça, dit le Zohar, on n'a pas le droit de le caractériser, de le définir. Khalila, que Dieu préserve. Beshum Shem, avec aucun nom. Klal, aucunement. Afil ou lo Beshem Yutke Vavke, même pas par le tétragramme, le Yutke Vavke. C'est-à-dire que quand je parle du Yutke Vavke, du tétragramme, je ne parle que de la volonté de l'infini. Attention, je ne peux pas prendre l'infini et lui donner des lettres. Encore une fois, je tombe dans la mesure, dans la restriction. Ça s'appelle de la Avodah Zara. Alors, qu'est-ce que je fais avec tous les noms? Tous les noms de Dieu, vous venez de traverser des Yabok et des Ekier et des Havaya et des Kassa, des Kana. C'est quoi tout ça? Eh bien, ce sont tout simplement des canaux par lesquels la volonté de l'infini circule dans notre monde. C'est tout. Donc, même le tétragramme, béni soit-il, va fil ou l'obé kotso shel yud, même pas dans la pointe du yud, de la première lettre du nom d'Hachem. Même pas là-bas, tu peux, chas v'shalom, croire qu'il s'agit de l'infini, béni soit-il. Dès que tu peux ouvrir la bouche, c'est déjà faux. On a compris? Ok. Alors, notre conclusion, okay, obligatoire à ce stade de notre cours, c'est qu'on n'a pas le droit, parce qu'on ne peut pas, c'est pas qu'on est, c'est interdit, mais qu'on pouvait, on aurait pu, ça n'existe pas. Tu ne peux pas, ça ne fait pas partie de ta structure, de ta nature, c'est autre chose. Alors, quoi? Mais à la volonté, oui. De la même manière que vous ne savez pas ce que je suis, mais vous pouvez peut-être imaginer ce qu'est ma volonté. Là, en l'occurrence, c'est de vous donner un coup. Mais c'est la même chose. On s'occupe de ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire la Torah. Mais pas de ce qu'il est. Alors pourquoi le Zohar donne la définition infinie, Ensof? On a ici une autre référence, le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volozhin, nous dit que attention, ce n'est pas une définition qui vient clôturer, qui vient cloisonner l'infini, béni soit-il. Et la kinui le hasagotenu, ce n'est que par rapport à nous, les étudiants, ce que nous pouvons assimiler dans notre cerveau reptilien, humain, cartésien, bekochot amushpaim alenu mimenu, par les forces qui nous arrive de lui, béni soit-il. Ok? Vous comprenez que ça nous met dans l'humilité? Quand je vous dis dans plusieurs cours, on n'a pas le droit de monter vers le haut, c'est de ça que je parle. À partir du moment où tu penses monter quelque part, c'est que tu es en train de définir lui, par ton cerveau à toi limité. Donc tu vas cibler. Tu ne peux pas. Donc notre seul lien avec l'infini, il est toujours de l'infini vers moi. Je ne suis conscient que d'une seule chose, c'est que je vis par lui. Donc tout ce que je vais faire, c'est de me laisser traverser de plus en plus par sa volonté. Vous êtes avec moi? Je ne monte pas parce que ce serait le limiter. Je le laisse dévoiler. Même quand vous faites la Amida, quand vous priez et que vous demandez quelque chose, ce n'est pas vous qui montez. Vous demandez par exemple la refoua, refaenu, Hachem venerapé, soigne-nous, toi l'Éternel, pour qu'on guérisse. Bien, vous comprenez bien que ça vient du haut vers le bas. Il fait passer par moi le médicament nécessaire à tous mes maux pour guérir toutes mes faiblesses, tous mes manques. Une fois que ça me traverse, je guéris. Et je continue ce flux de guérison sur mes amis. Quand je sais que quelqu'un est malade, eh bien, étant donné que je viens de faire appel à la guérison, cette guérison qui passe par moi parce que je suis un entonnoir qui recueille ce que je peux, eh bien, une fois que ça m'a traversé, je fais en sorte de penser à tous les amis que je sais être malades. Vous avez compris comment ça marche ? Dans la Torah, c'est pareil. La Torah est une prophétie, donc c'est une parole qui nous vient du haut vers le bas, du ciel vers notre existence, de l'infini au fini. Donc tout est du haut vers le bas. Alors l'expression que vous entendez, il est monté en spiritualité, ça ne veut pas dire qu'il est monté, ça veut dire qu'il s'est tout simplement élargi. Pour plus recevoir. Vous êtes monté en Israël? Et vous êtes monté où? Il y a combien d'étages? Monter en Israël, c'est élargir ton prisme. Vous avez compris? Ce n'est pas par hasard que Yehoshua, Josué, la première femme qu'il épouse en entrant en terre d'Israël, s'appelle celle qui est large. C'est tout. C'est-à-dire, il a épousé la largesse. Donc, ouvrez votre bouche. Quand tu élargis ta bouche, moi, l'Éternel, je la remplis. C'est tout. On est ensemble, c'est bon? J'espère que les choses sont claires. J'essaye d'être le plus lent possible, mais le plus clair possible.
Alors, vous avez quelques questions dans le chat, peut-être pour éclairer certaines personnes?
Alors, dans le chat, tu peux me les poser ou tu veux que j'aille
bien
les voir?
Sûr, je vous les pose, Arav. De Madame Corcos, est-ce qu'il s'agit du prénom usuel français ou le prénom qu'on m'a donné? Donc là, elle parle de prénom, je m'appelle Chantal, tout le monde m'appelle Chantal, dans mon alia. Bon, ça c'est une question un peu personnelle, je propose de la poser en privé. Le nom de Dieu n'existe pas, nous le nommons pour dévoiler des parcelles que nous sommes capables de recevoir et de manifester. Point d'interrogation.
Non, le nom existe, mais il nous arrive avec notre prisme à nous. Mais ce nom existe. Ce sont des lettres bien claires, le Yud, le He, le Vav et le He, et encore d'autres noms. Mais en réalité, ce n'est pas l'infini. C'est ça que je voulais dire. C'est une des expressions de l'infini. Et quand ça va nous arriver, ça va encore rentrer par le prisme que chacun d'entre nous représentera. Donc, le filtre étant différent. Donc, je vais avoir un accès différent de cette même et unique lumière.
Question de Rachel, prénom hébreu seulement, qui nous donne notre mission, ou c'est aussi le prénom français?
Bon, c'est la même question que tout à l'heure. Ça peut être même un prénom français, puisque un prénom français, ce sont aussi des combinaisons de lettres.
Question de Gabriel. Rav, quand on parle de Kavanot et le simple fait de penser à ces lettres, ou Tsiroufim, qui sont en fait des canaux qui nous permettent de nous y connecter.
Alors, les Kavanot, c'est très important comme question. Les lettres ne sont que des canaux. Ce sont des canaux de lumière par lesquels la lumière passe. Mais à l'intérieur de ces canaux est traversée la volonté de Dieu qui vient, elle, de l'infini. Donc, je ne dois jamais, même un kabbaliste, quand il fait les kavanot, ne s'arrêter qu'aux lettres qu'il voit, chas v'chalila. Ça devient de la sorcellerie. Il doit savoir que ces lettres sont traversées par la volonté et que cette volonté vient de l'infini. Étant donné que je ne comprends pas les choses de l'infini, il suffit juste que je pense que c'est la lumière infinie qui circule à travers les lettres que je suis en train de voir maintenant. J'espère que c'est clair.
Dernière question, et vous pourrez poser vos questions après, à la fin du cours, parce que je vois que je reçois plein de questions. Une dernière question, on ne cesse de dire qu'on ne peut pas en parler, mais finalement c'est ça dont on parle pour dire à quel point on ne peut pas comprendre. Donc on parle quand même, non ?
Non, on ne parle pas de lui. On est obligé d'étudier qu'il ne faut pas parler de lui parce qu'on ne peut pas. Et tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est justement de ne pas parler de lui, mais de sa volonté. Je le répète, pour que ce soit très clair. Sa volonté, c'est ce qu'il veut bien me donner. D'accord ? Par exemple, vous connaissez Dieu comme créateur du monde, mais vous ne savez pas s'il a d'autres métiers. Vous connaissez un seul métier, créateur. Ne croyez pas que vous le connaissez. Vous connaissez ce qu'il a bien voulu nous donner. Étant donné qu'il a créé le monde, que c'est pour nous, ça, je dois m'en occuper. Il m'a donné un corps, ça, je dois m'en occuper. Il m'a donné une âme, ça, je dois m'en occuper. Il m'a donné une Torah, soit je dois étudier. Vous comprenez ? Tout ce qu'il m'a donné, c'est pour moi. Ce qu'il est, lui, impossible de savoir, interdit d'aller chercher. Conclusion de ce qu'on vient de faire maintenant. Isukenu bechokhmat ha'emet. Toute notre affaire dans cette étude de la chokhma, de la sagesse de la vérité, n'est que dans ce qu'il a voulu, par sa volonté infinie, nous dévoiler à toutes ses créations, à toutes ses créatures. C'est-à-dire, Mitzad Atzmuto, donc je répète parce que ça doit être très clair, ça concerne son essence elle-même, Itbarach, en, il n'y a pas. L'osof veloreshit, ni début, ni fin, on ne peut ni commencer à parler, ni terminer, on n'a jamais touché quoi que ce soit. Velachen en lanu esek, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout à toucher là-bas. Ela belimud midotav. Voilà, maintenant je vais vous donner une autre définition. Nous étudions en réalité que ces mesures. Qui dit mesure, dit midot. Midot vient du mot en hébreu uniforme, madim. Donc, je n'étudie que les vêtements. Parce que dans ces vêtements, il y a certains degrés de dévoilement d'une volonté. Quand le roi s'habille en rouge, c'est que le roi sort en guerre. Lorsque le roi s'habille en blanc, c'est qu'il est dans un moment de miséricorde et qui me permet de demander ce que je veux. Et ainsi de suite. Comprenez ? Alors, tout ce qu'on fait maintenant, ce sont que des vêtements. Ces vêtements s'appellent donc sa volonté, et ces vêtements s'appellent son nom, ses noms. C'est la même chose. Donc ça s'appelle un levouche. Adonai Malach Geout Lavesh. On parle de ces levouchim. Donc nous sommes dans un monde qui habille. Donc tous les mondes, et plus tu descends, plus les vêtements sont épais. Pourquoi ? Parce que pour recevoir ne serait-ce que la volonté, je ne parle pas de l'infini, ne serait-ce que sa volonté, il faut des écrans assez puissants pour ne pas brûler, vous comprenez ? Et donc les vêtements, ça sert de protection. Et c'est pour ça, lorsque Adam et Ève, après leur faute, n'ont perdu qu'une seule chose, leurs vêtements. Donc, ils étaient censés mourir. Immédiatement, Kadosh Baruch Hu leur fait des vêtements nouveaux pour les protéger, pour leur faire passer sa propre lumière, sa propre volonté, sans les tuer. Vous êtes avec moi ? Chaque fois que je vous donne quelque chose, je suis obligé d'ouvrir des parapluies. Même vos maîtres, lorsqu'ils vous parlent, ils ne vous parlent pas d'une manière déshabillée. Pourquoi ? Parce que ça peut vous brûler. Regardez tous les parapluies que j'essaye d'ouvrir pour vous faire des dessins et des vêtements, pour vous faire comprendre des notions. Pourquoi je prends tout ce soin de vêtir mes mots par des exemples ? Mais justement pour ne pas brûler. J'aurais pu dire des notions qui vous auraient passé, qui seraient passées au-dessus de votre tête, et encore pire que ça, vous faire, chas v'shalom, un dégât. Donc, Akadosh Baruch Hu se soucie de nous, et il nous a donné des écrans, jusqu'au monde physique, matériel. Nous avons l'atmosphère. Si on n'avait pas l'atmosphère qui est un écran, on aurait brûlé par la lumière du soleil. Regardez la gentillesse et la bonté. Donc à chaque fois que l'infini se dévoile à nous, il se dévoile à nous par des nuées. Vous comprenez pourquoi il y a toujours une nuée ? C'est une protection. Les nuées protectrices. Il parle avec moi dans Av. Av, c'est l'épaisseur. Il est obligé de mettre un écran assez épais, des lunettes de soleil très puissantes qui peuvent résister au moins à 400 UV. Sinon, je vais brûler. Même mon cher Rabbeinu. Lorsque Dieu lui parle, il lui parle avec un écran parce que Moshe, après tout, n'est qu'un homme. On est d'accord ? Et donc, le mont Sinaï était rempli de fumée, de machin. Il a besoin de tout ce cinéma ? Ben justement, oui. Pas lui. Nous. C'est clair ? Ok. Mitzad atzmuto, itbarach, en lo sof, en lo reshit. Donc on ne peut pas étudier quoi que ce soit de lui, seulement de ses midot, donc de ses vertus. Les vertus, ce sont les sfirot que vous connaissez. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Voilà. Donc il va créer dans ce monde 7 formes de Neshamot. Les uns vont être identifiés par la sphère de Chesed, donc on va les appeler les Chassidim. Vous voyez, c'est les mêmes lettres. Pas tout le monde est Chassid. Il y a des gens qui sont plus dans la Chassidut. Pourquoi ? Parce que leur Neshama est du style Chesed. Leur filtre s'appelle Chesed. Mais il y a d'autres qui sont des Giborim, ce sont des généraux de l'armée. Alors ils viennent de la sphère de Gevura. Mais il en faut aussi des Giborim. Ils sont du côté gauche. Ils savent donner des limites. Et après, il y a une troisième catégorie d'âmes, Tif Eret, ceux qui sont dans la centralité qui correspondent à ceux qui parlent, qui savent parler, qui savent faire passer des messages parce que leur teneur, c'est le souffle et la thérapie. Donc, ils sont obligés d'équilibrer leurs paroles. Tiferet thérapie. Après, il y a une quatrième catégorie de Neshamot, Netzach. Ce sont les gens capables de prophétiser. Donc, ce sont des gens dont la prophétie intérieure est très développée. Ils sont très proches de la prophétie. Après, il y a Hod. Ce sont des visionnaires. Herzl, était un visionnaire, donc il avait une neshama qui vient de Hod. Après, il y a les tzadikim qui viennent de la sphira de Yesod, comme Yosef HaTzadik. Et après, il y a la sphère de Malchut qui correspond au roi. Binyamin Netanyahu a une neshama qui vient du royaume, donc c'est une neshama de Malchut. Vous comprenez comment ça marche? Et donc, nous sommes tous définis par ces sept vêtements possibles et imaginables qui contiennent le tout dans notre monde. Alors, vous multipliez chaque sphère par les sept autres, donc vous avez 7 fois 7, 49. 49 possibilités de vêtements pour recevoir la seule et même lumière volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la séphira du Homer. Entre Pessah et Shavuot, nous avons ces 49 jours dans lesquels nous fortifions les 49 prismes, les 49 filtres. C'est très simple ce que je suis en train de vous dire, c'est très sain. Comprenez-le, assimilez-le. Ça ne sert à rien de vous embrouiller l'esprit. Donc, occupez-vous des vêtements. Parce que si ton vêtement est capable de recevoir une très grande chaleur, eh bien, il la recevra sans se brûler. Pour être astronaute, eh bien, on va fabriquer des vêtements spéciaux pour ne pas justement que les astronautes meurent. Alors, on leur fait un vêtement. Donc, en réalité, qu'est-ce qui a changé? Le type dedans, c'est le même. Mais il a un vêtement. Alors, pour Shabbat, étant donné que la lumière est différente, eh bien, mets de côté des vêtements de Shabbat. Pour Yom Tov, mets des vêtements de Yom Tov. Et pour les jours de semaine, eh bien, chaque jour a des vêtements correspondants. Et quand tu commences à comprendre ce secret, en fait, tu ne fais qu'apporter des vêtements. Et selon le vêtement que tu proposes, eh bien, la lumière va arriver. Ni plus, ni moins. Exact. Donc, ce que vous avez dans votre vie, c'est exactement ce que vous devez avoir selon les vêtements que vous avez apportés. Vous êtes avec moi? Akadosh Baruch Hu ne veut pas vous faire du mal. Donc, il ne vous donne pas plus que ce que vous êtes capable de recevoir. Et si vous avez un jour été à un cours et vous vous êtes endormi dans le cours, c'est une bonté divine. C'est parce que le cours était en train de toucher quelque chose qui est supérieur à votre capacité à recevoir. Donc, il t'a dit « Dors, ma chérie, dors. » C'est tout. OK ? C'est aussi simple que grand. Les hamtsan, donc qu'est-ce que je dois faire avec les vertus, toutes ces vertus? Je dois les hametz otam. Les mazeles hametz. Adopter. Donc je dois adopter toutes ces forces. Bechayenu dans ma vie. Je vous ai dit tout à l'heure que chacun d'entre nous avait une, mais je vous ai dit après que chacune était composée des sept. Donc même si dans ma nature je suis peut-être la sphère de Chesed, à l'intérieur il y a la Gvoura, il y a la Tiferet, il y a le Netzach de Chesed. Vous êtes avec moi? Donc il faut que je touche un petit peu à tous ces degrés. Kedel Azrim Darkenu, une fois que je suis fabriqué de cette manière-là, eh bien, peut me traverser Retzonoid Barach, la volonté de Dieu peut me traverser. Letzorech Hashlamat Hayesh. Tout ceci, pourquoi? Pourquoi être traversé par cette lumière? Eh bien, tout simplement pour compléter les manques de ce monde. Ce monde manque de beaucoup de choses. C'est à moi de le compléter. Et donc, en utilisant ces vêtements, je fais des appels en réalité, et la volonté de Dieu passe par moi, par tous les prismes que je représente, que je présente, par tous les vêtements, et je remplis, je complète le monde. Donc, qu'est-ce que je deviens ? Associé à l'infini dans la complétude de ce monde. Donc, je suis associé à la Géoula. C'est rien d'autre que ça, la Géoula. Donc, le tzorech hashlamat hayesh al kol chesronotav. Shemo, donc son nom, il n'y a que de ça qu'on s'occupe, rappelez-vous. Retsono, la même valeur numérique. Einam et la kinuim, ce ne sont que des kinuim, des attributs. Ameuchasim le giluyo velo le atzmuto. Et tout ça n'est que son dévoilement, et jamais, au grand jamais, on ne parle de son essence. Bien que nous sachions que c'est l'essence qui traverse tout. OK ? Alors, mettez-le dans un petit coin de votre tête. À chaque fois que vous étudiez la Torah, vous savez que c'est l'essence qui circule. Stop, c'est fini. Maintenant, je passe à tous les canaux par lesquels cette essence va circuler. Vous êtes avec moi ? Yofi.
Arav ?
Quel ?
Il y a beaucoup de questions, Arav. Et je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'avancer sur autre chose. Peut-être on prend le temps de répondre aux questions.
Allez-y, parce que le prochain sujet, c'est déjà le Tzimtzoum. Donc, allez-y. Alors, vous écoute.
Je rallume les micros. Juste avant, il y a une question d'Edouard. Comment savoir quelle sphère son âme appartient ?
La sphère qui nous appartient sera dévoilée par ton maître au moment où ton maître va comprendre que c'est le moment de te le dire.
Wow.
D'accord ? Donc, le maître en Kabbalah fait des allusions à son élève à plusieurs reprises. Normalement, il est censé recevoir cette allusion et la comprendre. Sinon, un jour, le maître va lui dire, voilà, je t'ai donné 10 000 allusions pour dire ce que tu étais dans ton essence.
Si on n'a pas de maître ?
Si on n'a pas de maître, il faut en choisir un et il faut se le chercher le plus vite possible, comme il est dit, « Asse lecha rav ».
Rav, question de Aaron.
Bonjour Rav. Pour une question d'actualité. Quand on parle de réchauffement climatique, est-ce que ce serait juste de dire que c'est le Ein Sof Béni qui revient dans ce monde ?
Le Ein Sof Béni revient toujours dans ce monde. Ce n'est pas parce qu'il y a un réchauffement que maintenant il revient, qu'avant il s'est dit, tiens, je ne reviendrai pas, maintenant je vais commencer à revenir. Non, l'infini est toujours, il circule, il est dans ce monde, mais il ne se dévoile pas. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe dans le réchauffement climatique ? Qu'est-ce qu'on enlève ? Certains vêtements. Et donc on va enlever des vêtements qui protégeaient. Par exemple, le soleil a un écran protecteur et le jour où, comme les scientifiques sont en train de le dire parce que c'est une prophétie, que l'écran solaire va s'enlever, eh bien le soleil va réchauffer la planète d'une manière qui est beaucoup plus brute, brutale, mais parce qu'en réalité, la lumière est en train de se dévoiler de plus en plus, donc on enlève les écrans petit à petit. C'est pourquoi vous étudiez ce que vous êtes en train d'étudier. Ça va vous renforcer vos écrans percepteurs. Que même au moment où on va enlever les écrans, ne serait-ce que du soleil, vous allez vivre de ce soleil et non pas brûler.
Alors, Arabe, je me demandais, donc, c'est bénéfique alors ce réchauffement ?
Vadaï, c'est bénéfique dans le sens où nous sommes des tzadikim. Il y a marqué « Atid », je vous répète la prophétie. « Atid HaKadosh Baruch Hu lehotzi chama min artika ». « HaKadosh Baruch Hu va enlever le soleil de son étui. »« Reshaim Isarfu, les mauvais vont brûler et les tzadikim vont guérir des rayons de cette chaleur. » Bien entendu que ça a une correspondance kabbalistique, c'est la lumière de la Torah que nous essayons de dévoiler, de développer dans notre école. Voilà.
Alors, question de Zachary.
Oui, merci, Rav.
Ton micro, Zachary.
Vous m'entendez?
Ouais.
J'entends. Shalom
Ouvracha. Shalom Ouvracha. Et pour être sûr de bien comprendre, donc, vous dites qu'on ne parle pas de son essence, on est d'accord, mais on parle des vêtements, que finalement, parler de ses midot et de même le tov, etc., quand on parle des midot d'Hachem, on parle des vêtements qu'il met sur ce, enfin, qu'il met pour se dévoiler dans ce monde.
Exactement.
Mais finalement, on n'a accès qu'à ça. Donc, c'est de. Donc, la manière de parler de lui, c'est de parler de ça.
Exactement. C'est la même chose, mais on doit parler de ces vêtements-là parce que ces vêtements-là, ce sont des degrés par lesquels il se dévoile. Comme je vous ai donné tout à l'heure l'exemple, si je vois qu'à un moment donné, le roi se vêtit, comme ça on dit, ou se vêt, je ne sais pas, se vêtit de telle couleur, eh bien, il y a une telle proximité. Tout à l'heure, vous avez entendu parler du mois de Elul, eh bien, le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu s'habille avec tel vêtement, et si toi, tu sais, tu dois adopter chez toi ou te mettre les mêmes habits. Vous comprenez? Pour avoir une correspondance. C'est-à-dire, si aujourd'hui, Dieu est rouge, je dois me mettre en rouge. Si ses vêtements sont rouges, je dois me mettre en rouge pour qu'il y ait correspondance. Lorsque Dieu veut sortir en guerre, ça veut dire que les soldats d'Israël doivent aller faire une action. Vous comprenez comment ça marche?
D'accord, avant de laisser la parole, il y a une question dans le chat de Dani Ben Zimra. Bonjour Yoel, nos prismes changent-ils au cours de notre vie?
Le prisme change au cours de nos journées, pas seulement de nos vies. Ça veut dire que dans une journée, vous pouvez traverser les 49 degrés.
Et est-ce que vous pouvez revenir juste sur le Tiferet? Vous avez parlé de Tiferet, vous avez dit le rapport avec la thérapie.
La Tiferet, c'est l'axe central qui est censé trouver un équilibre entre le désir de partager, mais en même temps les mesures de ce partage. Donc c'est une recherche constante d'équilibre. C'est ce qu'on appelle la Tiferet. C'est pour ça que c'est lié à la thérapie, parce qu'un docteur, c'est ni rien, ni plus, ni moins qu'un homme qui cherche l'équilibre dans tous les éléments de l'être. C'est tout.
C'est question de Yaakov Zerbib. Yaakov.
C'est la situation de Midan.
Oui. Réa, madame Chola, messieurs, il faut lever la main si vous avez une question. Yaakov, Bechavod.
Ma question, Rav, c'est, on a parlé donc du fait que on parle des noms d'Hachem, donc c'est dévoilement. Et j'ai lu que dans le Ramban, il me semble, il dit que dans son commentaire sur la Torah, que en fait toute la Torah ce sont des noms d'Hachem.
Je l'ai dit. Alors,
ma question, c'est justement par rapport à ça. Est-ce que, alors si c'est toute la Torah que c'est des noms d'Hachem, alors pourquoi on parle de certains noms de manière explicite en tant les noms d'Hachem? Quelle est la différence entre les noms d'Hachem explicites et les autres lettres, les autres mots de la Torah qui sont des noms d'Hachem?
Tout simplement les différents degrés de noms. Il y a des noms principaux et des noms qui sont là un petit peu plus bas, intermédiaires, comme les vêtements et les sous-vêtements. D'accord?
Merci beaucoup.
Toi aussi, quand tu te mets des vêtements, tu ne mets pas directement une chemise sur ta peau, tu mets un talit katan, tu mets un tricot de peau, et après tu mets la chemise, et après par-dessus tu mets un pull, et par-dessus tu mets un blouson. Eh bien, c'est exactement pareil.
Hop, Gabriel, je te laisse la parole dans une seconde. Question de Rebecca Hazan. Question au Rav dans l'Amida, sauf ta droite et réponds-moi. Alors on lit le verset correspondant à notre prénom. Est-ce la même chose?
Tout à fait. À la fin de la Amida, on doit se rappeler de notre prénom en utilisant un verset de la Torah. Parce qu'au moment de la mort, jusqu'à 120 ans, on ne se rappelle plus de son prénom. Mais on se rappellera des versets de la Torah que nous avons cités. Donc, si vous avez un prénom, prenez soin d'apprendre le verset dans la Torah qui correspond à ce prénom. Par exemple, je vais encore me prendre comme exemple, Yoel. Pour ne pas oublier le Yoel, je vais prendre un verset qui commence par le Yud de mon prénom, Yud, Yoel, et qui se termine par le Lamed de Yoel. Donc, mon verset, c'est Yemin Hashem Osachail. D'accord? La droite de Dieu, c'est elle qui fait la guerre. C'est tout. Alors, choisissez un verset. Aujourd'hui, c'est très facile. Ceux qui veulent, écrivez-moi, écrivez à David, je vous choisirai votre nom, votre passouk dans la Torah, qui correspond à votre prénom. Et ça, c'est justement pour vous rappeler de votre essence.
Question de Gabriel Lévy.
Shalom Rav. Tout à l'heure, je posais une question sur les Kavanot.
Oui.
Ça m'a toujours interpellé. J'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qu'une Kavana ? Est-ce que c'est juste le simple fait de penser aux lettres ou il faut nécessairement comprendre, par exemple, tout à l'heure dans le cours du Rav Cherki, on comprenait bien que derrière ces Gematriotes et ces Tzirupim, il y avait un sens. Donc, ça serait intéressant. J'aimerais savoir si la Kavana, pour avoir une Kavana, il faut comprendre le sens de ces Gematriotes ou juste penser aux lettres et aux...
Bien entendu, vous avez déjà la réponse dans votre question. Il y a une étude spéciale qu'on appelle l'Ilmod Sidour. On étudie le Sidour. Et donc, on étudie les Kavanot et ce qui se cache à l'intérieur de ces Kavanot. Ce n'est pas seulement des combinaisons de lettres, c'est beaucoup de secrets qui sont à l'intérieur, qui sortent tous des versets de la Torah, encore une fois, parce qu'on ne peut pas sortir de la Torah. Tout est dans la Torah. Toutes ces combinaisons, ces kassas, ces yabok, ces et qui est avec des milouim, et des, tout ça, ça vient de la Torah. Donc, on étudie, c'est une étude à part entière. Bien entendu. Donc, on sait exactement comment la lumière de l'infini, sa volonté, circule à travers toutes ces combinaisons et ces permutations de l'être. Tout à fait.
Est-ce que c'est quelque chose qui...
Je voudrais poser une question.
Je voulais juste terminer, excusez-moi madame, juste terminer sur ça, sur cette question des Kavanot. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est, on va dire, obligatoire d'avoir des Kavanot ? C'est quelque chose qu'il faut étudier absolument ? Ou seulement à partir d'un certain moment, d'un certain niveau.
À partir d'un certain niveau, d'un certain moment, ça arrive à toi. Ce n'est pas toi qui vas chercher ça. Vous savez, je vais vous dire une règle générale dans la Kabbalah. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la question de Edouard. Dans la Kabbalah, ce n'est pas vous qui cherchez le maître, c'est le maître qui arrive à vous.
Qui arrive à vous, absolument.
C'est la même chose. Au niveau de, au moment où vos vêtements sont prêts, bien vous allez rentrer, vous avez l'impression que vous vous êtes inscrit à la Yeshiva Zoom. En réalité, vous avez été choisi par en haut. Ce n'est pas vous qui avez fait le choix. C'est comme quand vous allez au marché, vous croyez choisir des pommes. C'est les pommes qui vous ont choisi.
Je voudrais poser
la question dans une seconde. Il y a Meïra qui a levé la main juste avant vous. Meïra.
Oui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est imiter Dieu, en fait.
Donc, tout à fait. Imiter, pas Dieu, mais ses vertus.
Ses vertus, évidemment. Donc, tout ce « afour akum gamanach nutzrim liot akum » et ce n'est que ça.
Exactement, c'est ce que nous disent les Chachamim. « Ma hu rachum gamata tiye rachum », c'est tout.
Alors, toujours l'imiter, c'est
exactement.
Ça.
Si tu arrives à imiter Akadosh Baruch Hu dans ses vertus, eh bien, tu te conduis convenablement dans ce monde. Et en réalité, tu traduis ses valeurs dans ce monde. Donc, tu amènes la Géoula.
Et c'est valable pour les femmes aussi ?
Encore plus que pour les hommes.
Ah bon ?
C'est pas dans le sens encore plus. Les femmes sont avant les hommes parce qu'elles sont liées naturellement à la volonté de Dieu. C'est pour ça que vous dites le matin, « She'asani kiretsono ratson »« Tu m'as fabriqué comme ton ratson !» Quelle excellente nouvelle !
Mais les femmes n'apprennent pas la Kabbalah, pour que je sache.
Elles n'ont pas besoin d'apprendre. Elles sont mekablotes par nature.
Ah bon ? Alors, on peut se désinscrire du cours, donc, en
si
fait.
Si vous voulez, c'est votre choix.
D'accord, merci.
Mais d'une manière générale, ceux qui reçoivent, ce ne sont que les parties féminines de chacun d'entre nous. La femme est une receveuse par nature. Mais si elle veut étudier, bien entendu, elle accélère le mouvement.
D'accord, merci.
Alors, question de Simcha Lévy.
Oui, bonjour, Rav Yoel et tous, voilà. Tout à l'heure, vous nous avez dit par rapport aux écrans, par rapport au soleil et par rapport au réchauffement climatique, que nous sommes tous des tzadikim et que nous aurons besoin de moins de vêtements. Qu'en est-il des goyim des minéraux, des végétaux et des animaux.
Tous les éléments en dehors d'Israël qui savent qu'Israël est le canal par lequel la valeur et la volonté de l'infini passent seront aussi sauvés. Ceux qui ne reconnaissent pas la place d'Israël sur le podium de l'histoire, malheureusement, c'est ce qu'on appelle les Réchaïm. Ça veut dire qu'un non-juif qui sait que la Torah, que la lumière vient par le canal d'Israël, celui-ci est un chassid des nations du monde. Il n'a même pas besoin de devenir juif. Il est déjà dans la lumière parce qu'il reçoit cette lumière par le canal Israël. Mais nous la même chose pour tous les éléments.
Mais nous devons être à un niveau, un acte, Raviol.
Nous sommes déjà dans un niveau supérieur. Nous l'ignorons, c'est tout. Cette école vient vous dire à quel niveau vous êtes réellement. Vous avez négligé, comme des gens qui n'ont pas confiance en eux, qu'il faut qu'ils aillent pendant 20 ans voir des psychiatres, des psychologues, jusqu'au moment où ils sortent, ils ont pris confiance en eux. En réalité, ils n'ont rien acquis, c'était déjà en eux. Mais c'est exactement la même chose. Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes. Et quand vous allez accepter, parce que c'est difficile d'accepter d'être guéri, vous savez, je connais plein de gens qui veulent rester malades. Donc même quand ils ont guéri, ils disent non, c'est pas possible, c'est pas aussi facile que ça. J'ai envie encore un petit peu de rester malade. Okay? Alors non, c'est très rapide. Quand vous avez pris conscience, ça peut être en un clin d'œil.
Okay.
Et une fois que vous avez compris ça, vous êtes censé redevenir ce que vous êtes, c'est-à-dire prophète.
Alors, dernière question de Evelyne Garibaldi.
Madame Garibaldi. Oui, c'est la question du maître qui m'interpelle beaucoup, dans le sens que pour moi, le maître, c'est très difficile pour moi d'accepter le maître, dans le sens, en tant que différencié de ce que j'ai à l'intérieur. C'est-à-dire que le maître est intérieur à moi et je rencontrerai ou je rencontre, je ne sais pas si je l'ai rencontré, la personne qui va me faire résonance dans ce qui est en moi et qui va me le permettre de le révéler.
Je n'ai parlé de rien d'autre que ça.
Ah, d'accord. Ok. Merci.
Alors, il reste une petite minute. Alors, je vois qu'il y a une dernière question de Madame Mikou. Yochevet, une petite minute.
Shalom, Rav. Merci beaucoup pour votre enseignement. Si j'ai étudié la matière, oh. Je l'étudiais avec les notions de la comme matière, avec okay. Les outils de la chimie.
Okay.
Comment je peux aller plus loin? Je l'étudie à partir d'où? Et comment je fais le lien entre ceci et cela?
Ben, tout simplement, vous comprenez que les éléments chimiques de chaque matière, c'est en réalité les secrets de l'ADN de cette matière en question. Et si vous analysez tous ces éléments par la composition chimique, je vais vous donner un exemple, l'eau, donc deux hydrogènes, un oxygène, eh bien en hébreu, c'est les mots de ma'im, deux fois même, deux fois hydrogène, un yud au milieu qui représente l'oxygène. Et donc si j'arrive à comprendre, je peux même couper la molécule d'eau en deux, et j'aurai au lieu de ma'im en valeur numérique 90, deux fois 45. 45, c'est « ma ». Donc, je sais que le « ma », que le « quoi », que la question fait partie de l'eau, d'un élément liquide. Donc, je peux comprendre par là que la « mahout », que l'essence même de la mémoire la plus grande se trouve dans l'eau.
Dans l'eau.
Vous comprenez? Et lorsqu'on dit que les eaux se sont ouvertes en Égypte, eh bien, vous coupez le « ma'im » en deux. Donc, vous avez « ma »,« ma ». Et ce n'est pas par hasard qu'en arabe, l'eau s'appelle « ma ».
Dans le « ma », en tant que question, il y a aussi, j'entends aussi quelque chose autour du processus cognitif, parce que qu'est-ce qui est dans l'être humain?
C'est exactement ce que j'ai dit, « ma », c'est la « mahout », mais il y a aussi le « mi », c'est encore un autre degré. Il y a le « quoi » et il y a le « qui », mais ça c'est pour un autre épisode.
Toda Rabbi Yoel.